Radio Prague, les informations.
Le Canada et la Tchéquie favorables à la suppression d'obligation de visa pour les Tchèques. Selon Business Europe, la Tchéquie se classe parmi les pays qui résistent le mieux à la crise. Agression contre une maison habitée par des Roms à Ostrava. Des diplomates canadiens et tchèques réunis dans un groupe de travail à Prague se sont mis d'accord que les prochaines négociations entre la Tchéquie et le Canada devraient aboutir à la suppression de l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques qui désirent se rendre au Canada. D'après l'attaché de presse du ministère tchèque des Affaires étrangères, Philippe Kanda, la date de suppression de visa n'a pas été cependant indiquée. Selon la Confédération des organisations patronales européennes, Business Europe, la République tchèque figure avec le Danemark, l'Allemagne et l'Autriche dans le groupe des pays qui résistent le mieux à la crise économique. En commun avec la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, elle s'approche du niveau économique moyen de l'Union européenne et le niveau de sa compétitivité est excellent. Un cocktail Molotov a été jeté sur la maison d'une famille rome dans la ville d'Ostrava en Moravie du Nord. Selon une information donnée par la police lors d'une conférence de presse ce lundi, personne n'a été blessé. Une équipe de spécialistes a été créée pour enquêter sur cet incident ayant eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. La dette publique de la République tchèque a augmenté en 2009 de plus de 178 milliards de couronnes pour atteindre le chiffre de 1,178 billion de couronnes, quelque 45 milliards d'euros. À titre d'illustration, c'est 112 000 couronnes, quelque 4 300 euros par tête d'habitant. Des données fournies à l'agence Tcheteka par le ministère des Finances. Le nombre d'habitants de la République tchèque a augmenté de plus de 39 000 l'année dernière pour atteindre 10,5 millions. Le nombre de naissances a dépassé de près 11 000 le nombre de décès. Grâce à la migration internationale, le nombre d'habitants a augmenté de plus de 28 000. Les chiffres rendus publics par l'Institut des statistiques démontrent que le nombre de mariages contractés en 2009, 47 900, était à son plus bas niveau depuis 1918. Selon un projet approuvé ce lundi par le cabinet Jan Fischer, les écoles non spécialisées en République tchèque devraient accepter plus d'enfants handicapés et aussi plus d'enfants roms que dans le passé. La Tchéquie essuie souvent des critiques pour le nombre trop élevé d'enfants roms dans les écoles spécialisées réservées aux enfants présentant un handicap. Météo. Ce lundi, fête de toutes les Ida, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuageux à couvert avec des chutes de neige par endroits. Les températures de Jurne se situent entre 1 et 4 degrés pour les maximales. Mardi, le temps en République tchèque sera couvert avec des chutes de neige par endroits. Les températures de Jurne s'échelonneront de 0 à 4 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute de notre première émission de cette dernière semaine d'hiver. On parlera business pour commencer avec une initiative de la Chambre de commerce américaine en République tchèque décidée à se lancer dans la lutte contre la corruption. Et puis de la culture aussi avec le festival de films documentaires One World qui se poursuit à Prague. Vous entendrez deux réalisateurs français venus montrer leurs films dans le cadre de ce festival. Et puis hommage également au chanteur français Jean Ferrat dans cette émission, ce sera dans un instant. Juste après, ce sera comme d'habitude le sport avec Guillaume Narguet. Et puis vous retrouverez Václav Richter qui vient de vous présenter les informations pour l'émission musicale. Je vous souhaite une très bonne réception. L'opacité et la corruption dans les appels d'offres publics, des mots contre lesquels la Chambre de commerce américaine à Prague veut désormais lutter activement en mettant sur pied une équipe chargée de rédiger un amendement à la législation sur ces appels d'offres. Le journaliste américain Eric Best est membre du conseil d'administration de cette chambre de commerce. Il nous a parlé des raisons de cette initiative, une initiative dont on parle beaucoup à Prague dans le milieu des affaires.
Oui, je crois. crois qu'il y a deux raisons pour une initiative maintenant. Je crois que le temps est mûr pour une réaction de la sphère de la commerce. Il y a toujours une crise en République tchèque. On sent les effets de la corruption plus que jamais. Et il y a, je crois, une volonté de la part des politiques, des partis politiques, de faire des promesses avant des élections. Sur l'autre côté, la corruption en République tchèque a dépassé déjà des limites acceptables. Je crois que les électeurs sont fâchés. Tout le monde croit en tant qu'il faut économiser, mais ce sont les uns qui en tournent haut, les politiciens, les grands hommes d'affaires qui n'économisent pas. Et les gens en bas sont fâchés à cause de ça.
Est-ce que la Chambre de commerce américaine a pris cette initiative parce que des entreprises américaines aussi ont été touchées par des affaires de corruption dans des appels d'offres publics?
Je crois que c'est une très bonne question, mais je ne crois pas que ce soit la raison. C'est vrai qu'il y avait trois affaires récemment qui ont insinué des sociétés américaines. Ce sont des scandales qui touchent les sociétés Hewlett-Packard, General Dynamics et Ford. Et c'est vrai qu'une des trois sociétés est membre de la chambre de la commerce, mais ce n'est pas à cause de ça que nous avons décidé de lancer cette initiative maintenant. C'est plusieurs parce que le temps est mûr. Et je crois que les politiciens qui ont récepti à écouter une telle initiative. Et le plus grand problème, c'est que la corruption en République tchèque a vraiment dépassé des limites acceptables. C'est quelque chose que les électeurs voient, et c'est aussi quelque chose que la presse voit. Et la presse est maintenant plus active dans l'enraciné de la corruption.
Quelle chance donnez-vous personnellement à cette initiative? Est-ce qu'on pourra avoir les fruits d'une telle initiative même après la campagne électorale, selon vous?
Oui, je suis optimiste parce que nous avons déjà vu une vague de soutien. Il y avait des réactions très positives de plusieurs chambres de commerce, des Néerlandais, les Allemands, les Scandinaves, les Canadiens. J'espère aussi que les Français vont accepter aussi notre invitation. Mais pour avoir du succès, il faut exercer de la pression sur des partis politiques parce que c'est vrai qu'il est très facile de donner des promis avant des élections. Mais s'il y a une vague, vraiment une vague de soutien pour une telle initiative, on peut espérer qu'après les élections, ce sera plus difficile pour les politiciens d'ignorer ce qu'ils ont promis avant les élections.
C'était le journaliste américain Eric Best, membre du conseil d'administration de la Chambre américaine de commerce à Prague.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade.
Petit hommage maintenant de Radio Prague au grand Jean Ferrat, décédé ce week-end, vous le savez. Jean Ferrat qui, juste après l'invasion des troupes du Pacte de Varsovie à Prague en 1968, avait écrit cette chanson, Camarade. Écoutez bien les paroles.
Avec ton seul nom comme au bas, mes lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague. que le mois d'août s'obscurcit. Camarade.
C'était l'hommage de Radio Prague à Jean Ferrat, disparu ce week-end. Et on continue avec de la culture toujours, mais de la culture avec du film documentaire et dans le cadre du festival du film sur les droits de l'homme, One World, vous le savez, ce festival qui se déroule en ce moment à Prague. Deux cinéastes français sont venus présenter leur film qui s'appelle Les Arrivants, un documentaire qui se déroule à la CAFDA à Paris, la CAFDA, un centre qui accueille les demandeurs d'asile à leur arrivée en France. En pleine période de restrictions vis-à-vis des migrants en Europe, la CAFDA apparaît comme un microcosme où la détresse des migrants vient se heurter à l'impuissance des accueillants. Anna Kubishta a rencontré les deux cinéastes, Claudine Bory et Patrice Chagnard. On écoute.
En fait, on cherchait à faire un film sur, disons, sur l'immigration, on va dire, pour faire ça un peu large. Et en même temps, on a vite réalisé que cette question du droit d'asile, qui est quand même distincte de la question de l'immigration, était plus importante finalement pour nous parce qu'elle nous permettait d'exprimer notre philosophie sur la question de l'immigration. Parce que par nature, le droit d'asile, c'est le contraire de l'immigration choisie. On choisit pas les demandeurs d'asile. On peut choisir des immigrés si on veut, voilà, mais on peut pas choisir les demandeurs d'asile. On peut choisir de leur dire oui ou de leur dire non, c'est tout. Traditionnellement, en France, on leur a longtemps dit oui. Depuis quelque temps, on leur dit de plus en plus non, et voilà, c'est pour ça qu'on a eu envie de faire ce film.
Alors ce qu'on voit aussi dans ce film, il faudrait peut-être rappeler justement pour les auditeurs qui ne sont pas trop au courant, on voit aussi qu'il y a des problèmes de législation un peu particuliers, et on en parle un petit peu, c'est un terme qui revient, c'est la législation Dublin.
Oui.
Alors est-ce qu'on pourrait un peu éclaircir juste cette terminologie qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde ?
C'est un peu complexe, alors bon, pour faire court, les pays européens se sont mis d'accord pour qu'il y ait un seul pays dans lequel chaque demandeur d'asile peut faire sa demande. Voilà, un pays référent, on dit. Bon. Et en gros, ce pays, c'est celui par lequel il est rentré en Europe. À partir du moment où il n'est plus dans ce pays, il est sous la loi Dublin, et donc il doit retourner dans ce pays. Or, en fait, ces pays, qui sont souvent à l'entrée de l'Europe, comme par exemple la Grèce pour toute une partie de l'immigration, l'Italie pour une autre, la Pologne pour une autre, bon, ils seraient débordés. En réalité, donc, ils les laissent passer, bien sûr. Et donc, on se retrouve avec toute une population comme ça, qui erre de pays en Europe, sous la législation Dublin, qui ne reviennent pas, finalement, dans le pays où ils devraient revenir, parce qu'ils n'en ont pas envie, et parce que le pays non plus n'a pas envie de les retrouver. En plus, il se trouve que, par exemple, certains de ces pays, comme la Pologne et plus particulièrement encore la Grèce, n'accordent pratiquement aucun statut. Et c'est une directive inapplicable.
Mais je pense que cette directive est inapplicable volontairement. C'est-à-dire, je pense que c'est une des façons dont l'espace Schengen se protège par rapport aux immigrations non choisies, puisque c'est vraiment une politique qui concerne tous les pays d'Europe et que tous les pays d'Europe, en gros, maintenant, sont d'accord sur cette question-là, à savoir que l'espace, on circule, les frontières n'existent plus à l'intérieur de l'espace Schengen, mais l'espace Schengen devient une espèce de forteresse qu'on ne peut pas pénétrer, sauf si tel pays fait venir telle personne pour telle ou telle raison. Voilà.
Est-ce que la Convention de Genève n'a pas plus de pouvoir, entre guillemets, législation Dublin ?
Philosophiquement, on va dire oui, mais juridiquement, c'est plus compliqué que ça. Parce que juridiquement, en réalité, les réglementations Dublin, c'est une réglementation interne à l'Europe. Donc ça ne touche pas aux conventions, théoriquement. Ça ne devrait pas pouvoir s'opposer juridiquement aux conventions. Et d'ailleurs, dans les textes, littéralement, ça ne s'oppose pas. Ça s'oppose dans la pratique, pas dans les textes.
Quand vous avez décidé alors de vous intéresser à ce sujet et de filmer ce centre
dans ce lieu,
quelles sont un peu les règles que vous vous êtes imposées ou quels sont les écueils dans lesquels vous ne vouliez pas tomber, par exemple, on pourrait se dire, est-ce que vous êtes donné, par exemple, des règles, je ne sais pas, d'objectivité ou de pas
Non, d'objectivité, non, mais plutôt de vérité. C'est-à-dire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir ce qui se passait réellement dans ce face-à-face entre les accueillants et les demandeurs d'asile.
Et je crois ce qui est très important, de filmer les deux côtés.
Les deux côtés.
C'est-à-dire de ne pas se contenter de filmer un des deux côtés, et notamment le côté des arrivants, puisque c'est le titre, et c'est aussi vers là qu'on va naturellement, vers eux. Et nous, on a voulu s'intéresser autant et même peut-être davantage, je dirais, aux accueillants, aux accueillantes et aux travailleurs et aux travailleuses sociales qui sont au front, qui subissent ce choc d'avoir à accueillir des demandeurs d'asile et de ne pas avoir les moyens de le faire.
C'était Patrice Chagnard et Claudine Bory, les réalisateurs du film Les Arrivants, un film documentaire qui sortira le 7 avril en France. Et c'est déjà la fin des premiers faits et événements de la semaine sur Radio Prague, mais le programme en français continue dans une poignée de secondes avec l'actualité sportive.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive au programme une nouvelle fois très varié puisqu'il sera question de patinage de vitesse, de ski alpin, de cyclisme et d'athlétisme. En patinage de vitesse, tout d'abord, la héroïne tchèque des Jeux de Vancouver, Martina Sablikova, a fait son retour à la compétition après ses 2 titres aux Olympiques. La Tchèque a remporté la finale de la Coupe du Monde sur 3000 mètres. En ski alpin, la République tchèque a créé la surprise dimanche en remportant la compétition par équipe qui clôture les finales de la Coupe du Monde. En cyclisme, Roman Kreuziger a finalement terminé à la 4e place de Paris-Nice. Et puis enfin, en athlétisme, les Tchèques sont revenus sans médaille des championnats du monde en salle à Doha au Qatar. Après l'ouragan médiatique et les multiples sollicitations qui ont suivi ses 3 médailles olympiques et notamment son doublé sur 3000 et 5000 mètres, Martina Sablikova, fatiguée et en manque d'entraînement, avait laissé planer un doute sur sa participation au final de la Coupe du Monde de patinage de vitesse. Finalement, la Tchèque était bien présente au départ vendredi sur l'anneau de Herenveen, la Mecque de la discipline, et devant le public néerlandais, Martina Sablikova a fait une nouvelle fois la démonstration qu'elle était quasi imbattable sur les longues distances. En s'imposant sur 3000 mètres avec 29 centièmes et 1 seconde et 32 centièmes d'avance sur les Allemandes Daniela Anschulz-Thoms et Stéphanie Beckert, elle a remporté le classement général de la Coupe du Monde pour la 4e saison d'affilée, faisant ainsi mieux encore que la légendaire allemande Claudia Perchtein. Samedi, Martina Sablikova a également confirmé ses progrès réalisés cette saison sur le 1500 mètres, médaillée de bronze sur la distance aux Jeux Olympiques. La Tchèque a cette fois terminé à la 2e place, à seulement 12 centième de la Canadienne Christina Greuves, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de la spécialité. Un classement général final dont Martina Sablikova occupe, elle, la 3e place. Pour elle, ne reste donc plus désormais qu'un dernier objectif avant la clôture de la saison, les championnats du monde toute distance, où elle défendra son titre sur le combiné le week-end prochain. En ski alpin, la République tchèque a créé la surprise dimanche à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne en remportant la Team Event, compétition par nation, organisée en clôture des finales de la Coupe du Monde. D'abord tombeur de la France en quart de finale, les Tchèques, dont l'équipe était composée de Šárka Zárobská, Lucie Hrstková, Andrzej Bank et Krzysztof Kreisel, ont ensuite disposé de l'Autriche puis de la Suisse en finale. Il est vrai privé de ses meilleurs éléments. La Team Event est une épreuve organisée depuis peu par la Fédération internationale de ski. Il s'agit de 4 duels, chaque équipe étant composée de 2 filles et de 2 garçons. Cette année, la discipline choisie était un slalom géant, disputé donc en parallèle par 2 skieurs. Contre la Suisse, en finale, les Tchèques étaient à égalité de points à l'issue des 4 courses, avec 2 victoires dans chaque camp, mais l'ont emporté grâce au meilleur temps cumulé. On passe au cyclisme. Roman Kreuziger a terminé à la 4e place de Paris-Nice, traditionnelle course à étapes dont l'arrivée était jugée dimanche à Nice. Le Tchèque, qui figurait sur la 3e place du podium avant la 7e et dernière étape, a finalement rétrogradé d'un rang. L'épreuve, première course par étape majeure de la saison, a été remportée par Alberto Contador. Au classement général final de la course au soleil, le lauréat du dernier Tour de France a devancé de 11 secondes et de 25 secondes ses compatriotes Alejandro Valverde et Luis León Sánchez, pour un podium donc 100% espagnol. Roman Kreuziger est resté au pied de celui-ci pour une toute petite seconde. Il a été victime des 2 secondes de bonification glanées par Luis León Sánchez à un sprint intermédiaire de la dernière étape. Pour le coureur tchèque de l'équipe italienne Liquigas, le bilan n'en reste pas moins positif à un peu plus de 3 mois du départ du Tour de France, qu'il avait achevé à la 9e place l'été dernier et qui sera de nouveau son principal objectif cette année. En forme, Roman Kreuziger va désormais enchaîner avec la première grande classique de la saison, Milan-San Remo samedi prochain, puis le Tour de Catalogne la semaine prochaine, avant de participer aux grandes classiques ardennaises et notamment la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège mi-avril. Et puis on termine avec un mot d'athlétisme. Pour la 3e fois de son histoire, la République tchèque est revenue bredouille des championnats du monde en salle qui se sont tenus samedi et dimanche à Doha au Qatar. Les meilleures performances ont été signées par le relais féminin sur 4 x 400 mètres, 4e derrière les États-Unis, la Russie et la Jamaïque, et par Irgina Ptachnikova, Petra Svoboda, Jakub Olusha et Roman Scheberle, tous 5e dans leurs spécialités respectives, à savoir le saut à la perche féminin, le 60 mètres et le 800 mètres et l'heptathlon. Pour Roman Scheberle, quintuple médaillé en salle et double champion du monde en 2001 et 2004 de l'heptathlon, cette 5e place n'était pas une déception.
Oui, je suis plutôt satisfait de cette 5e place. Ce n'est pas si mal pour des championnats du monde, surtout par rapport à ma préparation. Je pense que si mon état de santé avait été meilleur, j'aurais même pu faire un peu mieux, même si c'est difficile de dire combien. D'un autre côté, mes adversaires ont tous fait environ 200 points de moins que leur performance habituelle. C'était donc compliqué pour tout le monde, mais me concernant, je peux être satisfait, surtout en prévision des championnats d'Europe en plein air. J'ai eu la confirmation que je pourrais lutter pour une médaille.
Et précisons que ces championnats d'Europe en plein air se tiendront à Barcelone du 28 juillet au 1er août prochain. Et les Tchèques pourront espérer y faire mieux que ce bilan vierge de médailles ramené de ces mondiaux en salle à Doha.
Merci à Guillaume Narguet pour le sport. On passe tout de suite à la musique pour adoucir les mœurs. Pas n'importe quelle musique, puisqu'il s'agit de celle choisie par notre expert en musique classique, Václav Richter. Très bonne écoute.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
Amateur passionné de danse moderne, musicien inspiré par le folklore, compositeur engagé. On peut dire tout cela et encore beaucoup plus à propos d'Erwin Schulhoff, un homme qui a apporté des impulsions inattendues et une nouvelle énergie à la musique tchèque de l'entre-deux-guerres. Il est né en 1894, enfant prodige, reçu au conservatoire de Prague à 10 ans, pianiste virtuose qui entreprend déjà à 16 ans une grande tournée en Allemagne. Il manifeste bientôt des dons pour la composition. Après des études au conservatoire de Vienne, de Leipzig et de Berlin, il écrit plusieurs compositions dans le genre du romantisme tardif, mais sa nature et l'originalité profonde de son talent le poussent vers l'expression moderne. Il trouve d'abord une forte inspiration dans le jazz qui fait fureur à cette époque aux États-Unis et en Europe. Il compose, à l'instar de ses contemporains Martinu et Ježek, des foxtrots, des chimis, des charleston, des boston, des ragtime, des tangos et des valses, mais il entreprend aussi la composition d'importantes œuvres symphoniques et de la musique de chambre. Son talent s'impose aussi sur le plan international et il est applaudi dans les festivals de musique moderne à Prague, à Salzbourg et à Genève. C'est la montée du nazisme en Allemagne qui provoquera un tournant dans sa création. Au début des années 1930, l'inspiration de Schulhoff change et il se met à composer de grandes œuvres symphoniques et vocales par lesquelles il exprime ses convictions socialistes. Il signe entre autres un oratorio pour soliste, chœur et grand orchestre à Vannes sur le texte du manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Il va jusqu'à demander la nationalité soviétique, mais il n'échappera pas au terrible rouage de l'histoire. Arrêté lors de l'invasion de l'armée allemande en Union soviétique, il est déporté au camp de concentration de Würzburg, où il meurt en août 1942.
il restera un des musiciens tchèques les plus originaux de la première moitié du XXe siècle, qui a su absorber les impulsions de son époque et donner une nouvelle vie à la musique dite classique. C'était un fragment du quatrième mouvement Romance du sextuor d'Erwin Schulhoff. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi.
Merci Václav de toujours nous faire découvrir des perles musicales. Et c'est ainsi que se termine le programme en français de Radio Prague pour aujourd'hui. Pour le réécouter, une seule adresse, le www.radio.cz. www.radio.cz. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at